France Inter, le 18-20.
C'était mercredi dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, confirmait cette information du Figaro, le décès d'au moins 5 patientes traitées contre un cancer du sein avec un médicament générique, le Taxotere. Enquête ouverte et débat relancé sur la dangerosité supposée de certains génériques ou à minima de leur efficacité. Moins cher, d'accord, mais peut-être aussi moins sûr, moins bien supporté par les malades et peut-être même fabriqué dans des pays qui ne respectent pas les normes européennes. On a tout entendu sur les génériques. Alors médecins, pharmaciens ou patients, si vous avez des doutes sur les génériques, une expérience peut-être négative ou au contraire, si vous ne faites aucune différence avec le médicament original, confiance absolue, eh bien trois moyens de nous joindre, dès maintenant, en direct, par téléphone au 01 45 24 7000, sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite, c'est Christian qui ouvre ce téléphone sonne. Christian, vous nous appelez de la Somme. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, Christian.
Bonsoir. Donc, je vous appelle pour deux cas de problèmes suite à générique. Donc, au départ, je peux rappeler que je n'étais pas contre les génériques. Je n'étais pas parce que suite à une première mésaventure, on m'a prescrit un générique qui m'a donné des allergies extrêmement importantes, très très fortes, avec réplique à 24, 48 heures. Donc, quelque chose d'extrêmement désagréable. Et donc, c'était la forme gélule. En constatant entre les deux formes, j'ai repris après le principe d'origine, les excipients ne sont pas les mêmes. Ça a donc d'une part allergie importante. D'autre part également, j'ai un traitement quotidien pour un reflux, je prends de l'inexium, bon voilà, c'est dit. J'ai voulu de moi-même essayer le générique. La pharmacienne me disait, je lui comprimais, j'ai pas d'allergie, donc je vais essayer. Au bout de 4 jours, les mêmes problèmes que j'avais avant de prendre sont revenus. Donc des reflux gastriques, la gorge qui racle, donc une inefficacité de ce médicament, de ce générique. J'ai repris après, donc je me suis fait represcrire le médicament d'origine et tout est rentré dans l'ordre. Donc j'ai gardé ma boîte de générique pour si quelqu'un veut l'analyser. Il n'y a aucun problème.
Eh bien, écoutez, merci pour ce premier témoignage, Christian. Et pour vous répondre, deux invités ce soir, le professeur Jean-François Bergmann, chef du département de médecine interne à l'hôpital Lariboisière. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir Marie-Laure Albi, médecin généraliste à Paris. Comment Bonsoir. Recevez-vous ce témoignage de Christian qui nous dit quand même qu'il n'avait rien a priori contre les génériques jusqu'au jour donc on lui a prescrit ce générique qui lui a donné des allergies, dit-il, horribles. Jean-François Bergmann.
On reçoit ça malheureusement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on voit les deux pendant, ça marche moins bien et il y a plus d'effets indésirables. C'est ce qui est dit et redit au sujet des génériques. Tout ce qu'on peut répondre, c'est les données de la science. Les données de la science sont toutes concordantes. Ces produits ont la même efficacité, quand on ne sait pas qu'on les prend en tant que générique, que les produits qu'on appelle princeps. Et il n'y a pas plus d'effets indésirables avec les génériques qu'avec les princeps. Ils peuvent être éventuellement différents parce qu'il y a ces problèmes d'excipients, mais il aurait peut-être pu être allergique aux produits princeps et pas allergique aux génériques. Donc, on sait, on connaît, ce sont des histoires de chasse, on en a des wagons, mais dans les faits scientifiques, il n'y a pas de preuve de ces différences.
Deux termes à expliciter, excipient et chasse.
Alors, excipient, c'est les produits qu'on rajoute aux produits actifs pharmacologiquement, qui a le colorant, le stabilisateur, etc., etc., qui peuvent être différents d'un produit princeps, le premier, et d'un produit générique, alors que le produit pharmacologiquement actif, lui, par définition, il ne peut pas être différent. Donc les petites différences, si elles existent, et si elles génèrent des différences d'efficacité ou de tolérance, sont liées à ces excipients et pas au produit lui-même. histoire de chasse parce que ce sont des cas particuliers. C'est Madame Michu, c'est Monsieur Martin qui disent que, et quand on regarde des grandes séries, avec des centaines de milliers de malades, des séries françaises, des séries européennes, eh ben, on voit pas de différence.
Marie-Laure Albi, des témoignages comme ceux de Christian, vous en avez entendu dans votre
alors,
cabinet?
Monsieur Bergman vient de poser le problème. C'est-à-dire, la science dit quelque chose et la confiance n'existe pas ou est insuffisante. Alors même qu'on a tout fait pour avoir des médicaments efficaces et sans trop d'effets secondaires. Donc je pense qu'on a une vraie difficulté sur le médicament générique en termes de confiance. Il faut redonner confiance et j'entendais en arrivant une émission sur l'indépendance des gens qui doivent donner confiance. Sur la prescription médicamenteuse, on a à faire un travail pour redonner la confiance aux patients sur la qualité de ce qu'on leur prescrit.
Parce qu'il y a une vraie difficulté. Des témoignages comme Christian qui vont redonner confiance précisément.
Il est très bien son témoignage parce qu'il est clair et en même temps il dit je n'étais pas contre a priori. Mais c'est vrai que avant de dire que le générique qu'il a pris est un médicament plus dangereux ou qui a plus d'effets que le princeps, il faut le vérifier et on ne peut pas le vérifier à partir d'un seul cas. C'est l'intérêt du système de santé d'avoir des médicaments au juste prix. Moi, j'aurais été partisane personnellement de mettre tous les génériques au même prix que le médicament à partir d'une certaine date, que le princeps, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'argent dans le système de santé. Et si un médicament peut être fabriqué de façon aussi efficace, aussi bien et au même prix, il n'y a aucune raison de dépenser plus pour un soin équivalent. Par contre, quand on se pose des questions, il faut avoir un système pour répondre à l'inquiétude des personnes qui, comme Christian, posent la question d'un effet sur une personne.
On reste sur cette notion de confiance parce qu'elle est évidemment cruciale dès l'instant où on parle de générique. Martine, vous nous appelez de Seine-et-Marne. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir à tous. Écoutez, avant de vous poser ma question, j'aurais voulu vous dire que je fais partie de la chasse parce qu'effectivement, j'ai eu les mêmes problèmes que l'interlocuteur précédent avec le même médicament. Voilà,
d'accord.
Dit. Maintenant, ma question est la suivante. J'aurais voulu savoir quel est le pourcentage de médicaments fabriqués à l'étranger, quelles sont l'origine des matières premières, et les différents sites sont-ils contrôlés et à quelle fréquence?
Eh bien, merci de ces trois questions en une, Martine. Pour vous répondre, Jean-François Bergman, d'abord sur le pourcentage de génériques fabriqués à l'étranger. On a une idée précise ou?
Alors, la majorité est fabriquée à l'étranger, mais c'est aussi vrai pour la majorité des produits princeps.
C'est où l'étranger?
L'étranger, ça va de l'Europe, de l'Asie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France aussi pour au moins un gros tiers. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette fabrication à l'étranger, elle existe aussi pour les produits princeps. Et quand la deuxième question, c'était la matière première. L'immense majorité de la matière première qui est vendue par des chimistes au laboratoire pharmaceutique est la même. C'est-à-dire que c'est, quand on parlait du médicament du reflux tout à l'heure, le médicament du reflux, les oméprazole, pour utiliser la dénomination commune, eh bien, le fabricant des oméprazole, il va en vendre à celui du princeps, il va en vendre à celui du générique, mais ça sort de la même chaîne de fabrication. Quant aux dernières questions, qui est celle du contrôle, les exigences de contrôle des laboratoires de fabrication, des laboratoires pharmaceutiques, sont les mêmes que ce soit un laboratoire de princeps ou un laboratoire de générique. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas demander à tous les pays de contrôler tous les laboratoires de fabrication partout dans le monde. Et en Europe, on a l'Agence européenne du médicament qui se partage le boulot. Les 29 pays de l'EMA, l'European Medical Agency, l'Agence européenne du médicament, se partagent. Toi, tu vas inspecter cette usine en Pologne. Moi, je vais inspecter cette usine en Inde.
Est-ce que c'est pas justement là l'un des éléments explicatifs de la défiance? On se dit que les contrôles ne seront pas tout à fait les mêmes en Inde ou en Chine qu'en Suisse, en Allemagne ou en France.
De la défiance, oui. De la moindre efficacité ou de la plus grande fréquence de signes d'intolérance, non, puisqu'il n'y en a pas statistiquement. Quand vous regardez, par exemple, les données de pharmacovigilance qui recueillent tous les effets indésirables, ils ne sont pas plus fréquents avec le générique qu'avec le princeps. Ça, c'est pas moi qui le dis par conviction, ce sont des dizaines et des dizaines d'études.
Mais est-ce qu'un générique qui serait fabriqué, par exemple, en Inde, est contrôlé lorsqu'il arrive sur le marché français?
Alors, on contrôle des lots, mais on ne contrôle pas la totalité des produits, évidemment, parce qu'il y a des lots qui changent. Mmh. Mais là encore, les règles, la loi est la même pour le générique et pour le produit principe. C'est pas un sous-médicament dans son mode de fabrication et dans son mode de surveillance.
Marie-Laure Albi.
Alors, moi, je suis pas compétente sur la fabrication des médicaments. Par contre, je souligne la même chose que tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de transparence et de clarté et de diffuser ces informations-là. Personnellement, je n'ai aucune crainte sur les contrôles de fabrication. Je suis sûre qu'ils sont les mêmes, qu'il s'agisse des médicaments princeps ou des génériques. La difficulté, je pense, sur les génériques, c'est d'abord qu'il y en a beaucoup trop. Ça, je crois qu'en France, c'est insupportable. Donc, le contrôle doit être d'autant plus difficile. Et d'autre part...
Pourquoi il y en a beaucoup trop, pardon?
Parce que quand vous avez, par exemple, à prescrire un princeps et un générique, moi, sur mon logiciel, j'en ai 15 pour la même molécule. Et je ne sais pas pourquoi ça, on est arrivé à cette situation-là, parce que M. Bergman en sait peut-être mieux, mais ça ajoute à la confusion, ça ajoute à la diversité des excipients, ça ajoute à la diversité des formes des médicaments, parce qu'il y a aussi un contrôle par le patient de ce qu'il prend. Il a beaucoup de mal déjà à mémoriser le nom, parce que les noms sont très longs et compliqués. Et en plus, la galénique change, donc la forme du médicament change. Donc, il prenait des pilules en petit cœur rose, il va se retrouver avec des losanges verts. Pour lui, c'est une inquiétude, voire une difficulté de contrôle de sa prescription.
Justement, Martine est toujours en ligne. Martine, vous aviez une autre question, justement, par rapport à l'enrobage, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'aurais voulu savoir si l'intolérance à certains médicaments génériques pourrait venir de l'enrobage, parce que moi, il m'est arrivé une mésaventure par rapport à ça.
Marie-Laure Albi ou Jean-François Bergman, l'enrobage?
On répond la même chose que tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intolérance à un médicament et c'est pas parce qu'il est un générique qu'on aura plus d'intolérance. C'est la manière dont il est présenté ou construit qui peut donner une intolérance. Ça, on peut avoir un médicament princeps qui vous donne une réaction. On peut avoir une réaction avec un autre médicament. Ça dépend comment il est construit.
Mais si on se dit qu'entre le générique et le princeps, de toute façon, c'est la même substance active. En revanche, effectivement, dans cet enrobage, si un laboratoire très loin de la France décide de faire des économies et va rechigner sur les matières premières utilisées dans cet enrobage, c'est du fantasme ou c'est possible, Jean-François Bergman?
Il peut pas faire des économies comme ça de son propre chef. Chaque modification de la chaîne de fabrication doit être soumise aux autorités d'enregistrement. Et s'il décide de modifier un colorant, un excipient, il est obligé de demander l'autorisation. On peut pas. C'est vraiment du médicament. D'où qu'il vienne, les règles sont mondiales.
D'accord. On repart au standard. Michel nous appelle de Paris. Bonsoir. Soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc je suis pharmacien moi-même. Lorsqu'on nous a présenté les génériques, c'était il y a un moment, je pensais que c'était très bien. Et pour avoir essayé, il m'est arrivé d'avoir sur certains médicaments trouvé le générique, certains génériques moins efficaces que la molécule initiale.
Quand vous dites moins efficace...
C'est dans les antidouleurs, moi c'est essentiellement avec certains anti-inflammatoires. Ça dépendait de la marque du générique. Je le trouvais moins efficace que la molécule initiale.
Et c'était...
Mais,
oui, je vous en prie.
Mais ma question, elle est aussi de savoir pourquoi on n'a pas le pharmacien ne peut pas laisser au patient le choix, quitte à être remboursé que sur la base du générique, d'utiliser la molécule initiale. Voilà, moi je trouve ça dommage. Ça a tué l'industrie pharmaceutique qui n'existe plus en France. Alors qu'il y a 20 ans, elle était florissante.
Je reviens à la première partie de votre intervention, Michel, sur moins efficace. C'était 1, 2, 3 retours de patients habituels ou c'était plus?
C'était nous, on avait en permanence des retours de personnes qui nous disaient que le générique était moins efficace.
Eh bien, écoutez, merci, Michel. Marie-Laure Albi.
Je pense qu'il y a une perception qui joue là-dedans, parce que si vous donnez en double aveugle des produits différents, sinon on les mettrait pas sur le marché comme générique, vous avez la même efficacité. Mais dans le traitement, il y a aussi une part personnelle qui fait que si la personne a l'impression qu'on lui a délivré un médicament moins bon, il va peut-être avoir un moindre effet, alors que si on lui donne de façon aveugle...
On revient sur une thématique placebo presque.
Oui, ouais. Non mais c'est pas placebo, mais le soin et la prise de médicaments, il y a une part objectif scientifique, mais il y a une part aussi de soins et de subjectif. Et je pense que ça joue, parce que franchement, je pense pas qu'on fabrique des médicaments moins efficaces. Par contre, je reviens sur la multiplicité. Je pense que de changer de galénique tout le temps, et c'est un peu la rançon du système où on substitue, et un petit peu en fonction du disponible chez le pharmacien, le fait de changer de médicament qui est le même principe, mais qui est une présentation, voire une galénique différente, je pense que ça peut induire plus d'effets adverses. Et ça, c'est aussi un des problèmes de la prescription générique. C'est qu'il y a beaucoup trop de molécules et beaucoup trop d'excipients différents.
Jean-François Bergman.
Pour continuer deux choses, d'abord cette variabilité qu'on ressent, cette antidouleur qui marche moins bien et la douleur revient. La variabilité entre les produits, parce qu'ils ne sont pas fabriqués exactement dans la même usine, elle est infiniment plus faible que la variabilité spontanée de l'évolution de votre maladie ou de votre métabolisme avec les médicaments. Autrement dit, quand les choses changent dans vos symptômes, il y a infiniment plus de chances que ça soit parce que c'est votre maladie qui change. La douleur, elle est jamais pareille d'un jour sur l'autre que parce que ça soit un autre médicament.
Mais si on n'a pas cet effet constaté avec le Princeps?
Mais on l'aurait si on prenait le si on prenait le principe plus longtemps. Les échecs, ça existe aussi. Quand vous prenez un bon médicament antidouleur pour votre arthrose, ça n'empêche que dans l'année, vous allez avoir 2-3 poussées d'arthrose alors que vous n'avez pas changé de médicament. Mais ça, à ce moment-là, on l'oublie pas. On oublie de faire la relation. Et la façon dont on donne le médicament, c'est vraiment vrai. Il y a une petite histoire. Des étudiants en médecine fatigués avant les examens. C'est classique. On leur donne un truc pour leur redonner la pêche. On leur donne de deux façons. Pour la moitié, on leur dit, voilà, prenez ça, vous irez mieux. Et dans l'autre moitié, on leur dit, on va essayer ça, on verra si ça marche. Et dans les deux cas, c'était un placebo. Ben, quand on leur a donné avec conviction, il y en avait 64% qui allaient mieux. Quand on leur a donné avec doute, suspicion, il y en avait que 39%. Donc si vous donnez un générique en disant, oh là là, ma pauvre dame, je suis obligé de vous donner un générique, c'est déjà foutu. Alors que si vous donnez le générique en disant, vous savez, je suis sûr, je suis convaincu, je suis convaincant, c'est le même produit, ça a la même efficacité, ça a été contrôlé, ça marche.
Mais il y a quand même aussi, parce que là on ne se place que du côté des patients, des malades, si on se place du côté de vos confrères généralistes, Marie-Laure Albi, on constate aussi une défiance du côté de vos collègues, certains collègues.
Tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là. Moi, j'ai fait partie d'un syndicat qui a défendu la prescription générique parce que on a une responsabilité économique, malgré tout. On veut pouvoir soigner tout le monde le mieux du monde. Et il y a bien un moment où il faut essayer de le faire au juste prix, comme dirait le Conseil de l'Ordre. Mais il y a des gens qui sont pas convaincus. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les patients. Parce qu'il y a quand même un gros travail de suspicion chez les patients. Mais il faut, et puis j'y ai droit et on soigne à moindre coût. Donc, c'est moins bien ce qui se discute. Mais il y a aussi des collègues à convaincre. C'est sûr. Il y a des collègues qui considèrent que, effectivement. Mais le principal problème que nous avons maintenant en consultation, c'est qu'avec le nouveau système, où les gens sont pénalisés financièrement quand ils prennent pas l'ordonnance avec les génériques, c'est que nos collègues pharmaciens qui en ont assez de se faire engueuler, nous les envoient en disant dites à votre médecin de mettre non substituable devant la molécule. Ah oui. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, à un moment donné, c'est un peu agaçant parce que la consultation c'est pas quand même fait pour ce genre de situation et ça perturbe la relation de soins quand même pour tout le monde.
Je donne la parole à l'un de vos confrères, Frédéric, vous nous appelez de région parisienne. Bonsoir, on vous écoute.
Ouais, bonsoir. Moi, je voulais faire deux remarques. En fait, je suis effectivement souvent confronté avec mes patients à une suspicion sur les génériques. Pourtant, je pense être persuasif, en tout cas être motivé dans la prescription. Mais je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que, en fait, le générique n'était pas en tout point identique au principe, enfin au médicament Princeps, c'est-à-dire le principe actif plus la forme galénique, etc. Ça lèverait beaucoup les suspicions si on avait un médicament qui était en tout point commun. Et puis la deuxième réflexion que je voulais faire, c'est aussi, je pense qu'il faut vraiment différencier deux types de médicaments. Il y a les médicaments classiques, puis il y a les médicaments qui sont à marge thérapeutique étroite. Et c'était l'ouverture de votre émission. que j'aime beaucoup par ailleurs, qui parlait du docetaxel, du taxotère, mais c'est une chimiothérapie et par définition ça fait partie des médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire la limite entre le bénéfice et la surdose ou les effets toxiques est beaucoup plus difficile à gérer que pour par exemple du paracétamol, quoi. Et donc je pense que le générique sur ces médicaments-là, il est probablement plus difficile, et je sais qu'il y a aussi des tests de dosage qui ne sont pas validés pour les génériques, qui sont validés pour le princeps. Voilà, c'est mes deux remarques par rapport à ça.
Eh bien, merci pour ces deux remarques, Frédéric. La première, donc, pourquoi pas des médicaments en tout, enfin des génériques en tout point commun avec le princeps, Jean-François Bergmann?
Il y en a qui sont en tout point commun, il y en a même qui sont fabriqués par les mêmes laboratoires, qui vont mettre dans une boîte avec le nom Princeps et dans l'autre boîte avec le nom générique. C'est exactement les mêmes, et il y a d'ailleurs des malades qui disent « Ah, on m'a passé le générique, ça marche moins bien », alors que c'est exactement les mêmes.
Comment font-ils pour vendre le même produit à deux prix différents?
Mais parce que c'est du business pour eux, ils ont tout intérêt à jouer sur les deux tableaux. Donc, et il faut bien savoir aussi que le princeps, au cours du temps, modifie sa constitution, comme le générique. De temps en temps, vous allez avoir un princeps qui va changer d'un excipient, vous le saurez même pas, parce que ça sera la même boîte et le même nom. Donc, ça tient pas vraiment. Et quant au problème du docetaxel, alors là, c'est encore plus facile, parce que quand c'est de l'injectable, il n'y a plus de ces problèmes d'excipients, de goût, de couleur,
Là, c'était dans le cadre,
c'est
effectivement,
une perfusion, de ce qu'a révélé le Figaro. Et la perfusion, on vous met exactement le même nombre de milligrammes, que ça soit le produit A ou le premier produit B. Et là, le générique en termes de produits injectables, il est encore plus copie conforme.
Encore plus copie conforme. Marie-Laure Albi?
Je pense que le deuxième problème soulevé par l'interlocuteur, l'histoire de la marge thérapeutique étroite, là encore, moi je demanderais plus de transparence et plus d'analyse, parce que je pense quand même qu'il y a je pense qu'on manque de données, parce que c'est vrai qu'il y a des histoires de chasse, mais quand il y a beaucoup d'histoires de chasse, ça finit par faire un travail d'analyse qui pourrait peut-être remettre en cause ou confirmer le fait qu'il y a une équivalence entre le générique et le princeps. Je pense qu'il y a quand même, quand on rencontre une difficulté, il faut l'analyser et qu'on manque peut-être d'un endroit où on pourrait travailler sur effectivement les effets secondaires, les remises en cause. Après, il y a forcément des gens qui ont l'impression et qui se trompent, mais il y a peut-être des gens qui ressentent vraiment des effets secondaires inappropriés avec des molécules qui ont été considérées comme équivalentes, c'est possible.
Mais à l'heure actuelle, l'Agence nationale du médicament n'est pas justement censée faire remonter, rassembler, synthétiser toutes ces remises en cause?
Elle devrait le faire.
De concert avec les labos, hein, mais...
Elle devrait le faire, mais d'une part, la pharmacovigilance, en France en particulier, est pas très efficace, parce que c'est des notifications qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il n'y a pas de recueil systématique. Et l'Agence du médicament fait son boulot à sa vitesse d'agence administrative. Et c'est pas toujours la vitesse qu'aimerait voir, par exemple, le journaliste ou bien sûr l'utilisateur, c'est-à-dire le médecin.
On repart au standard. Isabelle, vous nous appelez de Gironde. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir, merci, mais je me demande si ma question ou ma remarque a toujours, si je fais bien de l'affaire, concernant la mention non substituable, moi justement je me posais la question de savoir si elle était toujours possible, si les médecins pouvaient toujours l'utiliser, parce qu'il y a quelques années j'avais eu cette mention sur une ordonnance, qui n'était pas pour un produit particulièrement important, j'ai pas vraiment souvenir, et ce n'était pas prescrit par un médecin opposé par principe au générique. Déjà, il y avait ça. Et alors, je suis pas très très clair, peut-être, un de vos intervenants a dit que, dans certains cas, les princeps, excusez-moi, je ne l'ai pas dit à la précédente, au standard, ça, mais comme j'écoutais votre intervention, dans certains cas, les princeps évoluaient, c'est-à-dire, il y avait certaines choses qui étaient légèrement transformées sans que personne n'en soit informé, mais dans ce cas-là, si on n'est pas informé, pourquoi nous a-t-on informé de l'existence des génériques? Si on n'a pas besoin d'être informé, il n'y aurait plus de problème. C'est pas clair ce que je dis, peut-être.
Si justement, ça l'est, Jean-François Bergmann opine du chef. Qu'est-ce que vous répondez, Isabelle?
Non, alors, quand je disais on n'était pas informé, les autorités sont informées des changements, même pour le princeps. Mais c'est vrai que le malade ne le perçoit pas. Est-ce qu'on aurait dû faire du générique sans le dire, en le cachant? Je pense que ça serait quand même malhonnête. Mais encore une fois, on revient sur ces problèmes de conviction. Aujourd'hui, on porte ce problème de générique. Chaque fois qu'on entend ce mot, il y a toujours des gens qui se lèvent. J'ai envie de faire une petite aparté. Supposons qu'il y ait un accident en Gironde, un accident de car scolaire avec 3 morts. Point, le car était un savième. Lendemain matin, vous déposez vos enfants au car scolaire pour qu'ils aillent à la colle. Qu'est-ce que vous allez regarder? Est-ce que le car est un savième? Et vous allez dire, si c'est un savième, oh là là, je veux pas que mon enfant monte dedans parce que hier, il y a eu un car savième qui a eu un accident. Et voyez, c'est ça ce qui va pas avec le générique. C'est-à-dire que quand un malade a un effet indésirable ou une manque d'efficacité, il faut qu'on s'interroge pourquoi est-ce que le médicament a pas été bien donné, pas bien pris, etc., etc. Faut pas tout de suite dire c'est un savième ou c'est un générique. C'est pas le problème que ce soit un générique. Le problème c'est est-ce qu'on a donné le bon médicament au bon malade au bon moment. Qu'il soit générique ou pas n'est pas la problématique. La problématique c'est la qualité de notre prescription.
Je vous soumets deux questions et commentaires par mail franceinter.fr. D'abord, Marie-Claude Anand qui nous dit « Il est faux de dire que les génériques sont systématiquement moins chers. J'ai plusieurs fois constaté des prix identiques. » On va y répondre. Et après, c'est Fabrice Apérigueux qui nous demande « Un médicament générique est-il évalué sur de vrais patients ?» Alors d'abord, sur le prix.
C'est tout à fait exact. Et c'est incompréhensible.
De fait.
Mais je pense que au-delà de cette remarque, moi personnellement, j'ai toujours pas compris pourquoi on mettait pas tous les médicaments au même prix. À partir du moment où il y a un certain temps qui s'est passé et qu'ils sont généricables, ce serait beaucoup plus simple. La suggestion de l'auditrice tout à l'heure de demander simplement aux gens de payer la différence s'ils veulent prendre la marque, ça me paraît, je vois pas pourquoi on fait pas ça.
C'est logique.
C'est logique.
On dit que c'est du bon sens, en tout cas.
Voilà, mais... C'est, après tout, pourquoi pas. Et c'est tout à fait juste que certains produits sont au même prix que le générique. Je vois pas c'est une bonne chose, mais ça devrait être généralisé.
Là, pour le coup, c'est illogique par rapport, justement, à ce souci d'économie, non? Oui. Jean-François Bergman.
Le but du système, c'est d'offrir la même qualité de soins pour moins cher. Si après le princeps veut s'aligner et faire comme ça petit à petit baisser les prix, tout le monde est content, le service médical rendu est le même et la sécu dépense moins d'argent, donc tout le monde est content.
Sur la deuxième question, celle de Fabrice, un médicament générique est-il évalué sur de vrais patients, Jean-François Bergman?
Alors clairement non, et c'est tout le but du générique. Dès lors que la molécule est connue, n'oublions pas qu'elle a été utilisée pendant 10 ans. 10 ans, donc on a une expérience de ce produit. Dès lors que le générique a démontré chez des volontaires sains ou chez des malades, mais plus souvent chez des volontaires sains, qu'il a exactement le même comportement dans l'organisme que le produit Princeps, il est dispensé de faire des études cliniques chez les malades, parce que s'il devait faire les mêmes études cliniques que le produit Princeps, il pourrait pas être moins cher. On considère que les 10 ans d'expérience et la similitude pharmacologique suffisent pour se garantir de la même efficacité thérapeutique. Et là encore, ce qui pourrait paraître léger ne l'est pas, parce que l'expérience nous prouve, avec des centaines d'études et des centaines de milliers de malades, que de faire ça ne diminue pas l'efficacité. Aujourd'hui, 86% des antibiotiques qu'on prend pour les infections sont des génériques. On n'a jamais entendu dire que depuis ces dernières années, les antibiotiques étaient moins efficaces dans les infections.
On repart au standard. Henri nous appelle de Seine-Maritime. Bonsoir Henri.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir, mais je ne sais pas trop exactement ce qu'est un générique en définitive, puisque c'est la même chose que le Princeps de départ. Donc pourquoi le Princeps de départ continue d'exister alors qu'il coûte beaucoup plus cher? Pourquoi les génériques ne sont pas fabriqués, mais vous avez dit qu'ils étaient fabriqués par les gens qui fabriquaient le Princeps? Donc,
certains cas.
Oui, dans certains cas. Mais donc, l'intérêt du générique, quel est-il? De coûter moins cher, et parfois il ne coûte pas moins cher. Pourquoi changer de nom? Pourquoi on supprime à partir du moment où on estime que ce produit a 10 ans, qu'il peut coûter moins cher?
je sais pas, le labo doit le vendre moins cher, ou s'il le vend pas moins cher, un autre labo doit proposer la même molécule qui s'appelle du même nom, etc. Je comprends rien à cette histoire.
Eh ben, on va essayer de vous répondre, Henri. Merci pour cette véritable question. Pourquoi ne pas supprimer le Princeps si les génériques sont exactement les mêmes? Alors, une histoire de gros sous, c'est une histoire de labo?
Le Princeps souvent se supprime de lui-même. C'est-à-dire que le laboratoire du Princeps, voyant arriver des génériques qui prennent le marché et qui sont aussi bien que lui, arrête. Parce que souvent les laboratoires qui ont été...
Ou alors le labo fabrique
ou
du
alors
générique.
Ou alors aussi du générique. Ouais. Mais un laboratoire qui fait des nouveaux produits, au bout de 10 ans, il s'est largement remboursé de son investissement initial, il laisse le produit au génériqueur, il en cherche et il en développe d'autres. Ça, c'est tout à fait courant. Et il y a des principes qui disparaissent. Ce dont il faut s'assurer avant de les autoriser à disparaître, c'est que l'intérêt thérapeutique soit maintenu par l'arrivée des génériques. Il serait hors de question que un industriel arrête de développer un médicament parce qu'il ne fait pas assez de bénéfices. On ne peut pas arrêter une fabrication simplement parce qu'on n'a pas envie. On n'est pas dans les yaourts ou dans les chaussettes. En revanche, on peut n'avoir que des génériques et ça pose pas trop de problèmes. Alors, moins cher, le but, c'est d'effectivement faire des économies, quel qu'en soit le moyen. À la fin, il faut que ça soit moins cher. Quant au nom, le nom, je crois que c'est une propriété industrielle. Vous avez un nom propre, vous pouvez pas, ça a fait votre force, et le Princeps ne peut pas s'appeler du même nom que... Le générique ne peut pas s'appeler du même nom que le Princeps pour des raisons de propriété.
Et puis on revient à ce que vous disiez, Marie-Laure Albi, dans cette notion de confiance. On connaît, je vais pas citer de marque, mais voilà, on connaît la boîte, on connaît le nom, ça rassure.
Mais il n'y a pas que rassurer, il y a le problème très difficile du nom. C'est-à-dire que les noms de médicaments font 3 lignes maintenant et ne sont pas mémorisables par un citoyen normal. Donc je pense que le nom, la boîte ont été pendant très longtemps un facteur au fond de contrôle par le patient de son ordonnance. Et là, maintenant, ça devient très difficile. On a un vrai sujet sur le nom. En même temps, si on refait des marques, on va retomber dans le Princeps et dans la problématique industrielle. Donc ça, c'est un sujet qui doit, à mon avis, être traité et qui n'est pas simple. Alors, dans nos logiciels, on arrive à avoir l'ancien nom, etc. Donc, on peut, pour que la personne se repère, on y arrive. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est une vraie difficulté du développement des génériques. C'est d'avoir des ordonnances avec une série de noms incompréhensibles pour les citoyens et pas toujours simples, même pour les professionnels de santé.
Mais ça joue aussi, Jean-François Bergman, dans cette défiance.
Oui, mais je vois pas pourquoi on serait, nous, en France, plus bêtes qu'en Hollande ou qu'au Danemark, qui se sont fait ou à sa DCI. Et puis, quand je vois la subtilité des noms des différents shampoings qu'il y a dans ma salle de bain, je vois pas pourquoi je n'arriverais pas à comprendre les noms des médicaments, alors qu'il y a 125 shampoings qui ont 125 noms différents.
Oui, qui ont pas, enfin, votre nom de shampoing fait pas forcément 3 lignes non plus.
Oui, mais enfin, on ne se lave pas les cheveux avec les médicaments. Je veux dire que pour moi qui vois pas mal de patients polypathologiques en ville, franchement, il faut que je vous apporte les ordonnances. Hein. En plus, c'est peut-être un problème de logiciel. C'est pas toujours écrit de manière suffisamment explicite. Et franchement, les gens s'y retrouvent pas. Donc, je dis pas que je vais trouver la solution ce soir, mais je pense qu'il faut y réfléchir parce que on parle de sécurité à tous les étages, partout, tout le temps. Mais la sécurité de la prescription et de la compréhension par le patient, là c'est une vraie difficulté avec le développement des génériques qui, par ailleurs, est tout à fait, qui est tout à fait logique pour dans notre système de santé.
Je suis d'accord sur les efforts qu'on doit faire pour simplifier les noms, la compréhension, et puis d'ailleurs aussi pour simplifier l'ordonnance, d'arrêter les médicaments inutiles, de simplifier, d'éviter les doublons. Ça fait partie de nos efforts thérapeutiques et les génériques doivent participer à cet effort comme les autres.
Marité, vous nous appelez d'Angoulême, vous êtes la bienvenue, on vous écoute.
Merci, bonsoir à tous. Voilà, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt ce soir, particulièrement parce que je me sens concernée. Mon mari est polymédicamenté. J'ai lu dans une revue médicale, dans un CHU, que ce pourrait être dangereux, des génériques dans son cas. Lui, il ne se pose pas trop de questions. En revanche, moi, je m'en pose beaucoup. Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît ?
Merci de cette question, Marité. Qui veut répondre ? Jean-François Bergman.
Le fait d'être polymédicamenté est un problème en soi, mais n'est absolument pas lié au fait qu'on ait des princeps ou des génériques. Encore une fois, chaque générique est très proche du princeps, et il n'y a pas de déviance de générique en générique, et donc d'avoir des génériques dans une longue ordonnance n'est pas plus dangereux que dans une courte, et n'expose pas plus au risque parce que ce sont des génériques. En revanche, plus l'ordonnance est longue, plus il y a des interactions, plus il y a des effets indésirables.
Marie-Laure Albi.
Juste pour répondre à cette dame qui s'inquiète pour son mari.
Visiblement, oui.
S'il a beaucoup de médicaments, c'est probablement qu'il a plusieurs maladies. Certes, les médicaments sont des, qu'ils soient génériques ou princeps.
Elle dit oui.
Ils ont des effets secondaires et ils peuvent être dangereux. Mais en même temps, si vous arrêtez les médicaments de votre mari, il risque de tomber plus malade qu'il n'est. Donc c'est toujours le principe de ne pas nuire, mais de quand même soigner. Et c'est vrai qu'on dispose de moyens actifs pour soigner les gens actuellement, mais qu'il faut les utiliser avec discernement, parce que quand on est un médicament actif, c'est pas Monsieur Bergman qui va me dire le contraire, on a forcément des effets secondaires actifs aussi, éventuellement. Mais bon, bah, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on veut soigner les gens, on est obligé parfois de leur prescrire des médicaments efficaces, donc parfois dangereux.
Jean-François Bergman.
Entièrement d'accord.
Entièrement d'accord. Entièrement d'accord pour partir à Toulouse. Thierry, bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui. Bonsoir, je suis pharmacien, je suis content d'intervenir, je vais faire bref. Je suis étonné quand même de la réaction de certains intervenants, que ce soit des utilisateurs ou des professionnels, parce que les deux derniers scandales concernant les médicaments concernent le Mediator et la Dépakine en France, c'est des médicaments Princeps, premier point. Le deuxième point, les laboratoires Princeps fabriquent en Asie essentiellement Sanofi, 80% de sa production en Inde et 15 à 18% en Chine. Ensuite, ces laboratoires Princeps ont leur propre filiale générique, quasiment tous. Novartis, c'est Sandoz, Sanofi, c'est Zentiva, Servier, c'est Biogarant, ainsi de suite. Le quatrième point, certains génériqueurs ont des usines qui fabriquent des médicaments Princeps. Le cinquième point, ça concerne le principe actif, comme un de vos intervenants a dit. Si on prend le paracétamol, il doit y avoir une ou deux usines dans le monde, c'est comme pour les lessives, puis après il y a 15 ou 18 marques sur le marché. Le sixième point, je suis quand même étonné qu'en France, il y ait toujours cette défiance par rapport aux génériques, puisque en Allemagne, 75% en volume sont des génériques, en Angleterre, 73%, en France, même pas 30%. Le septième point, il faut savoir concernant les formes galéniques...
Il y a combien de points, excusez-moi Thierry, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Merci.
Le septième point, non mais concernant les formes galéniques qui sont différentes, il y a une dame qui est intervenue sur votre plateau, il faut savoir qu'AstraZeneca a empêché les oméprazoles de sortir sous forme comprimée initialement, c'est pour ça que c'était sorti en générique, en gélule, pardon, et finalement c'est sorti en comprimé, mais ça vient essentiellement des laboratoires Princeps qui empêchent les génériqueurs. Et le dernier point, concernant les médicaments à faible marge thérapeutique, j'ai un article, moi, dans ma pharmacie, concernant le Levothyrox. Le directeur de la qualité, production et qualité de Merck Serono qui fabrique le Levothyrox a reconnu qu'il n'y avait aucune différence entre son Princeps et le générique. Simplement, ils ont intoxiqué tous les professionnels de santé et les patients. Au départ, ils ont fait le boulot pour protéger leur bistec. Ça se comprend qu'ils protègent leur bistec. Mais quand même, il faut rétablir certaines vérités.
Voilà. Merci Thierry. Tâche ardue, Jean-François Bergman, répondre aux 9 points de Thierry en 30 secondes.
Non, c'est un beau plaidoyer pour le générique. Et en plus, je crois qu'il a tout à fait raison. Après, il y a effectivement cette susceptibilité individuelle, mais c'est vrai qu'elle est encore une fois inférieure à la susceptibilité qu'on a vis-à-vis des médicaments en général. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser le problème et revenir à une bonne prescription, point final.
Moi, je crois aussi à vous avoir écouté, entendu pendant 45 minutes qu'il y a un vrai travail de simplification, d'explication et d'information à transmettre auprès du grand public. Merci beaucoup Marie-Laure Albi, médecin généraliste à Paris, Jean-François Bergman, chef du département de médecine interne à la Riboisière. Merci. Dans quelques secondes, un nouveau journal.